Alors quel est cet homme qui... On va commencer à regarder. Tenez, je prends Saint-Luc ici. Au débouché des falaises d'Arbel, il y avait une ville dans l'Antiquité célèbre qu'on appelait les Migdal Tarichée. J'évoque ici. En Tibériade était une ville nouvelle. Tenez, peut-être qu'il serait bon de donner un petit peu comme le fait Saint-Luc. Et un tableau de la complexité politique au temps de Jésus. Saint-Luc fait un effort de synchronisation entre l'histoire profane et puis l'histoire évangélique. Au chapitre 3, il commence comme cela. L'an 15 du principat de Tibère César. Ponce Pilate étant gouverneur de Judée. Hérode, tétrarque de Galilée. Philippe, son frère, tétrarque du pays d'Iturée et de Traconitide. Lysanias, tétrarque d'Abilène. Sous le pontificat d'Anne et de Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. L'an 15 du principat de Tibère César. Hérode le Grand, quand il est mort, son empire a été partagé entre trois de ses fils. Il y a Archélaus qui a reçu la Judée-Samarie. Et puis ensuite il y a Hérode Antipas, celui dont on parle dans l'évangile, qui a reçu la Galilée et aussi la Pérée, là-bas de l'autre côté, en face, Macéronte. Il dominait à la fois la Galilée et la Pérée. Et puis alors Philippe, son frère, on se promènera là demain, par-delà le Jourdain, du côté du plateau de Golan, du côté de Césarée de Philippe. Jésus aussi, c'est un lieu saint, nous entraînera jusque là-bas. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'Archélaus a été vidé assez rapidement et remplacé par un procurateur, lequel était Ponce Pilate au temps de Jésus. Bon, alors Tibériade, il faut savoir que pendant la jeunesse de Jésus, pendant les 20 premières années de sa jeunesse à Nazareth, Tibériade n'existait pas encore. Et la capitale, c'était Sepphoris, Sipporis, qu'on a aperçu ce matin aussi en quittant Nazareth, là. Une colline boisée avec une maison cubique au-dessus. Les archéologues se passionnaient actuellement pour les fouilles de Sipporis. Et ça s'étend sur une très grande surface, c'était la capitale. Alors Jésus, quand il sortait de son trou, il avait, ça explique bien les paraboles, sous les yeux, la capitale. Mais alors, Hérode Antipas a construit une ville, où nous passerons tout à l'heure, Tibériade, qu'il a appelée Tibériade parce que l'empereur régnant était Tibère, il devait son pouvoir aux Romains, et alors il a flatté les Romains et a appelé cette ville Tibériade. Et il ne semble pas que Jésus ait été à Tibériade, mais il semble qu'il y avait dans l'entourage de Jésus des gens qui venaient de Tibériade et qui étaient à la cour d'Hérode le Grand, au début, du temps où la capitale était là. Et l'entourage féminin de Jésus ici. Il advint ensuite qu'il cheminait à travers villes et villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée la Magdaléenne, Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. On ne dit pas lesquels, elle vient en tête de liste. Jeanne, femme de cousin intendant d'Hérode. Suzanne, on dirait une plus d'elle, et puis plusieurs autres qui les assistaient de leur bien. Et dans l'évangile de Saint-Luc, ce que je viens de vous lire, c'est le début du chapitre 8, il y a avant le récit bouleversant de la pécheresse pardonnée et repentante. La tradition chrétienne a pris l'habitude de confondre les deux récits. Quoique le texte ne permet pas de confondre Marie-Madeleine avec la pécheresse repentante et pardonnée. Enfin, moi je fais un peu comme la tradition de l'Église. Il y en a même qui pensent que c'est la même que Marie de Béthanie. En tout cas, le comportement des femmes envers les cruches est très révélateur. On a déjà vu ça à propos de la Samaritaine. Et ici, en tout cas, c'est très très semblable, le comportement de Marie de Béthanie et le comportement de la pécheresse repentante et pardonnée. Il y en a qui en voient 3, 4 plutôt que 3, et d'autres qui disent que c'est la même femme. En général, les prédicateurs ont tendance à dire que c'est la même femme, ça peut faire de bons sermons pour montrer que les grandes pécheresses peuvent venir des grandes saintes, et puis les exégètes, au contraire, analysent les textes, et puis en voient plutôt 4 que 3. On va lire le texte, et on va se poser pour la première fois la question qui va présider à toute notre tour autour du lac, mais quel est cet homme qui renouveler notre étonnement, notre émerveillement, que la séduction de la personne du Christ agisse aujourd'hui sur nous puissamment. Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme qui dans la ville était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Et se plaçant par derrière, à ses pieds tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes et les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Mais prenant la parole, Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. parle, maître, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'en aimera le plus ? Simon répondit, celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. Il lui dit, tu as bien jugé. Et vous remarquerez que ce style de la parabole, on n'aborde jamais un sujet directement, parce que qu'est-ce qui se passe si on l'aborde trop directement? Eh bien, l'autre va se braquer et puis il aura des réactions d'agressivité en sens inverse, on n'arrivera à rien. Alors on raconte une petite histoire et il juge d'autant plus objectivement celui auquel on s'adresse qu'il ne se sent pas concerné. Alors on l'invite à porter un jugement sur une situation donnée, et puis ensuite on lui dit, ben voilà, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Par exemple, le plus typique, c'est l'histoire de David après son adultère avec Bethsabée et puis le meurtre d'Uri. Il y a Nathan qui arrive, qui lui raconte une petite histoire. Alors David dit, mais cet homme-là, il est digne de mort. Cet homme-là, c'est toi. Paf. Alors ici, Jésus, c'est comme ça qu'il s'y prend aussi. Il raconte une histoire. Un homme, un créancier, avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'en aimera le plus ? Simon répondit, celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. Il lui dit, tu as bien jugé. Et se tournant vers la femme, tu vois cette femme, dit-il à Simon, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, elle au contraire m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux, tu ne m'as pas donné de baiser, elle au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers, tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, elle au contraire a répandu du parfum sur mes pieds, à cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis, parce qu'elle a montré beaucoup d'amour, mais celui à qui on remet peu, montre peu d'amour, puis il dit à la femme, tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient à table avec lui se dirent à eux en eux-mêmes, « Qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés ?» Mais il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Ben voilà la question qui va se poser à nous tout au long de la journée. Quel est cet homme qui ? Et de l'autre côté, là, quel est cet homme qui calme la tempête ? Quel est cet homme qui, jamais homme n'a parlé comme cet homme ? On va faire le tour du lac, comme ça, dans le calme de ce dimanche. On va prendre notre temps. On va passer par les lieux saints traditionnels, mais on ne va pas s'arrêter là. On va aller à Bethsaïde, où les pèlerins ne vont pas habituellement. On ira sur l'autre rive. On ira même contempler le lac dans sa forme harmonieuse, là, sur l'autre rive. Et demain, nous suivrons Jésus qui nous entraîne par-delà le Jourdain, jusqu'au pied de l'Hermon. Au pied de l'Hermon, aux sources du Jourdain, à Césarée de Philippe. Et là, il y a un grand tournant extrêmement dense de signification. Mais une chose à la fois. Aujourd'hui, c'est le tour du lac. Quel est cet homme qui... Vous avez peut-être des questions à poser sur le lieu où nous sommes assis maintenant.
On se trouve ici, donc, en vue de ces falaises, les falaises d'Arbel, mais alors nous sommes dans un lieu où il y a des ruines, manifestement un lieu de culte, un lieu de prière.
Une synagogue, et Arbel était célèbre, on en trouve des traces dans la Mishnah, les Pirkei Avot, là. Il y a un certain Nathan, un Arbeli, qui habitait ici, et on dit dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il disait déjà ? C'est ça, éloigne-toi d'un voisin qui est méchant, ne te lie pas avec les méchants, et puis ne te décourage pas si vient une épreuve qui... Et alors vous avez vu les affiches là en passant, on est ici dans une synagogue qui était comme ce qui est un peu rafistolée, on peut imaginer ce qu'elle était. Et oui, on parle d'un certain Menachem Ben Amiel, hein, qui était originaire, qui est considéré comme le ici, Yigalé, comment c'était la formule déjà, j'ai perdu le papier que j'avais. Yigalé Amashiach, Menachem Ben Amiel, Bevikat Arbel. Vous connaissez tous des gens qui font des études juives, là, il y en a à Jérusalem, à Ratisbonne, interrogez-les un peu à ce sujet, et voyez s'il n'y a pas de mystérieuse correspondance entre cette arrivée du Messie pour nous, par cette échancrure là, des falaises d'Arbel, et puis comment s'exprime, de quelle manière s'expriment les espérances juives du Messie qui doit arriver aussi par ici, qui est ce Menachem Ben Amiel.
Vous avez remarqué aussi que...
Enfin, il y a deux Nazareth, vous avez remarqué une Nazareth en haut, Nazareth Illite, et puis Nazareth en bas. En bas, c'est le dimanche pour les chrétiens qui se reposent ce jour-là. Et nous avons traversé la ville juive en haut, et là, c'est le premier jour de la semaine. Pour nous, le Christ, par sa résurrection, a débarqué dans l'éternité. Et alors, le dimanche, nous célébrons le jour du Seigneur, le jour de la résurrection. Et alors, dans la tradition chrétienne, c'est pas seulement le premier jour d'une nouvelle semaine, mais c'est le huitième jour, 7 plus 1, 7, c'est le chiffre parfait, 7 plus 1. Et le dimanche, alors, c'est le primordialis dies festus, vous lisez les textes conciliaires. Donc les juifs disent que le Shabbat, c'est la plus grande fête toutes les semaines. Eh bien, nous chrétiens, c'est le primordialis dies festus. C'est le noyau de toute la liturgie, le dimanche. C'était la fête de l'Annonciation il y a quelques jours, vous voyez. Eh bien, on l'a fêté un jour avant, pour qu'on puisse célébrer le dimanche qui passe avant même cette grande fête, cette grande solennité. Sentez l'importance du dimanche. Alors nous sommes au 8e jour, on peut dire le 8e jour, nous sommes dans la ligne d'une grande tradition chrétienne, ou bien le premier jour d'une nouvelle semaine. Mais on ne peut pas, nous chrétiens, ne pas évoquer le dimanche, cette joie qui nous envahit quand on pense que déjà l'absurdité de la mort a été franchie, qu'il y a une tête de pont de l'autre côté. En vivant dans le Christ, par lui, avec lui et en lui, en allant aussi loin que nous pouvons dans l'imitation de ses souffrances, eh bien, nous prenons comme un élan qui aboutira dans l'éternité, nous partagerons sa gloire. Comme dit saint Paul, l'essence qui est derrière moi, je me précipite de tout mon être en avant, désirant participer à ses souffrances pour participer ensuite à sa résurrection. Relisez saint Jean Eudes, hein, je lis tout à l'heure, c'est toute la morale chrétienne, encore une fois, qui est posée. C'est bon que ça soit posé au début de cette nouvelle étape dans la rencontre.